France Musique. C'est l'été sur France Musique. Les Uchronies musicales de Laurent Villarem.
Et si Pierre Boulez avait écrit un opéra ? Palais Garnier, 1968. Pierre Boulez crée son nouvel opéra sous protection policière. L'année précédente, il déclarait pourtant vouloir faire exploser les opéras. Ses collègues, des nuls. Kagel et Ligeti n'y connaissent rien en théâtre. Mais le pire de tous, c'est Hans Werner Henze. Le compositeur allemand, c'est sa tête de turc. Boulez dit à son propos, Henze est comme de Gaulle. Il peut faire n'importe quelle connerie, il se croit toujours roi. Nous sommes en mars 1968. Le compositeur français a surpris tout le monde en disant qu'il écrivait un opéra. On ne sait presque rien du projet. Et le scandale gronde. On raconte que Pierre Boulez a travaillé avec Jean Genet, qu'il s'agirait d'un brûlot sulfureux sur la guerre d'Algérie, que ce serait une insulte faite aux Français. On dit aussi que Boulez veut détruire le Palais Garnier et qu'il pense déjà à une nouvelle salle dans le nord de Paris. Certains croient même à un attentat. Voilà. Boulez s'avance sur l'estrade du chef d'orchestre. Le silence se fait. Tout le monde retient son souffle. Début et la fin de Pli selon pli de Pierre Boulez. Pour m'accompagner dans cette uchronie, Lambert Dousson, vous êtes philosophe et vous avez fait paraître en 2017 un livre Pierre Boulez, une manière de penser et de sentir aux presses universitaires de Rennes. Tout d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Boulez a vraiment dit qu'il voulait faire exploser les opéras?
Bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est la vérité. On trouve ceci dans un entretien très violent et aux accents assez maoïstes que Boulez a donné en 67 à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Il ne dit pas que ça, d'ailleurs. Il dit aussi que l'Opéra de Paris est un endroit plein de merde et de poussière.
Eh ben.
Un ghetto de vieux bourgeois, un truc pour touristes. Il conseille d'y envoyer les gardes rouges pour venir y faire le ménage. C'est une ambiance révolution culturelle.
Ah, les gardes rouges, rien que ça. Alors, est-ce que c'est vrai aussi que Boulez voulait travailler avec Jean Genet?
Ils ont réellement commencé à travailler ensemble. Boulez ne voulait pas mettre en musique un texte qu'avait déjà écrit Genet, donc il écrivait la musique à mesure que Genet écrivait, lui, de son côté, le livret. Le problème, c'est que Genet est mort en 1986 et on n'a plus que des esquisses de ce projet.
Et ça parlait de quoi d'ailleurs, ces esquisses?
On n'en a aucune idée.
Ah ben d'accord. Alors Lambert, je voudrais vous faire écouter une autre voix maintenant.
J'ai appris hier. Il faut croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots. Comme ils sont colportes entre évier et latrine à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus, ah, ingurgité.
Vous reconnaissez Lambert?
Oui, c'est Antonin Artaud.
Et donc Boulez a voulu travailler avec Artaud?
Non, Artaud est mort trop tôt. Il est mort en 48. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais Boulez a pu le voir réciter ses poèmes dans une galerie d'art à Paris en 1947. À l'époque, Boulez a 22 ans et il a été profondément impressionné par Artaud. Il lui rend un très bel hommage dans un article de 58 intitulé « Son et verbe » où il écrit une phrase très célèbre qui se termine par « Comment organiser le délire ?»« Comment opérer une fusion du son et
ça,
du mot ?»
Ça, c'est une préoccupation de Boulez, ça, ouais.
Oui, c'est la préoccupation de Boulez et c'est vraiment comme ça que Boulez essaie de définir sa musique à partir des années 50. Et disons en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce texte, il l'écrit au moment où il compose Pli selon pli, et ce qui fait comprendre que il va organiser le délire, c'est pas seulement un rapport entre son et musique, mais c'est également un rapport à toute la musique de Boulez en général.
Lambert, l'une des choses les plus surprenantes au sujet de Boulez et l'opéra, c'est qu'il a envisagé de mettre en parole des slogans de mai 68. C'est vrai ça?
Ouais, c'est ce qu'on apprend en lisant le livre de Catherine Steinegger, Pierre Boulez et le théâtre. Il l'a envisagé, mais il abandonne très vite le projet parce que, pour lui, c'est un matériau qui est trop lié à l'actualité. Et Boulez est de toute façon très critique à l'égard de mai 68, à l'égard des événements. De toute façon, il est critique à l'égard de tous les mouvements politiques en général.
Ce sont un peu en dehors, entre guillemets, ouais.
Oui, en fait, la question que se pose Boulez, c'est la musique, et rien que la musique. Et si on revient à la question de Genet, Boulez a été très impressionné par les paravents, et on sait que les paravents parlent de la guerre d'Algérie, mais au fond, pour Boulez, l'essentiel, c'est pas la guerre d'Algérie, même si Boulez a signé le texte, hein, les manifestes des 121 pour le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Mais ce que Boulez admire chez Genet avant tout, c'est l'écriture elle-même, son inachèvement, et la puissance de cette écriture à transcender la réalité.
Thank you.
Un extrait de Répond de Boulez. Lambert Dousson, un autre aspect du rapport de Boulez avec l'opéra, c'est qu'il n'aurait peut-être pas fait exploser un opéra, mais en tout cas, ça ne se serait pas déroulé dans une salle traditionnelle.
En tout cas, surtout pas dans une disposition à l'italienne et surtout pas à Garnier, qui était trop...
Et puis c'est un endroit plein de poussière et de...
Et voilà. J'imagine que Boulez aurait choisi un théâtre de banlieue, comme celui de Nanterre, où il y avait Chéreau et où l'a découvert justement les paravents de Genet, et où le rapport entre la scène et la salle aurait été plus complexe, plus mobile, plus souple. Un peu comme dans Répond, justement, où les six solistes entourent le public et ils ne sont pas devant le public.
Lambert Dousson, vous avez écrit un livre sur Stockhausen aux éditions MF, qui est super d'ailleurs.
Merci.
Est-ce que Boulez aurait lui aussi fait appel à quatre hélicoptères pour son opéra?
Non, jamais de la vie. Il aurait trouvé ça totalement ridicule. Et en fait, Boulez détestait tout ce type d'allusion au monde réel, que ce soit les bruits, les sons concrets. Il détestait même les glissando ou les clusters. En revanche, on peut imaginer que Boulez aurait utilisé l'électronique, histoire de faire voyager les instruments, de faire voyager les voix, de les dédoubler, de les transformer en fantômes, les faire sortir de la scène. En fait, mine de rien, Boulez, il a pensé à l'opéra jusqu'aux dernières années de sa vie. Et en 2011, dans un entretien, il disait encore avoir un projet sur Beckett. Mais, et ça c'est assez touchant, il disait lui-même que ça arrivait sans doute trop tard, qu'il savait que quand on écrit pour la première fois, pour la scène, c'est jamais un chef-d'œuvre et qu'il se sentait pas à la hauteur. Mmh. Ce qui en fait est assez touchant de la part de quelqu'un dont on a pu croire qu'il était toujours sûr de lui et qu'il pensait avoir toujours raison.
C'est l'été sur France Musique, les uchronies musicales de Laurent Villarène.
Pour la seconde partie d'émission, nous allons partir dans des directions plus inattendues. Mais si on termine sur la partie sérieuse, Lambert, si Boulez avait écrit un opéra, ça aurait donc été quelque chose de très surprenant, quelque chose de violent, de pas institutionnel, peut-être même de sexuel.
Alors, peut-être pas surprenant du point de vue de sa musique, il n'aurait pas changé grand-chose à sa musique, mais en tout cas, il y aurait eu peut-être des surprises quant à la thématique abordée. Ce qui fait dire ça, c'est quand on regarde les gens avec qui il voulait travailler, donc il y a eu Genet, il y a eu aussi Beckett, hein, mais il avait aussi envie de travailler avec Bernard-Marie Koltès ou avec Heiner Müller, tous sont morts trop tôt, donc il y a une sorte en fait de malédiction de l'opéra chez Boulez. Mais quoi qu'il en soit, tous ces personnages-là, ce sont quand même des figures de violence, d'insoumission, voire d'insurrection par rapport à la société, hein, qui contrastent très fortement avec la figure institutionnelle de Boulez.
Célèbre sans cesse battre.
La scène de la chevelure suppliciée de Pélée et Mélisande, dirigée ici par Pierre Boulez. Bon, on va parler d'autres cheveux maintenant. Lambert, vous êtes prêt?
Je suis prêt.
Accrochez vos ceintures. Bon, pour cette uchronie, on part de deux éléments véridiques, Lambert Dousson. Donc Boulez aimait la vitesse, ça c'est vrai.
Ouais, il aimait beaucoup les voitures allemandes, les bonnes grosses berlines allemandes, et il adorait rouler vite à toute blinde sur les autoroutes allemandes.
Et l'autre élément, c'est qu'il a fait un disque avec Frank Zappa en 1984, une rencontre qui avait étonné tout le monde à l'époque d'ailleurs.
En fait, la rencontre a tellement étonné les gens qu'elle a été très médiatisée à l'époque, quitte à les gêner un petit peu tous les deux, puisque c'était la rencontre de deux monstres, un du rock et l'autre de la musique contemporaine, que tout séparait. En réalité, c'est Zappa qui a fait le premier pas. Il a d'abord commencé à envoyer des partitions pour grand orchestre à Boulez, qui lui a répondu qu'il n'avait pas le temps en fait de les jouer parce qu'il était accaparé par l'IRCAM, par l'ensemble intercontemporain, mais que si Zappa écrivait spécialement pour l'ensemble intercontemporain, alors il les créerait, et c'est ce qui s'est passé. De son côté, Zappa, lui, il a toujours été fasciné par la musique moderne. C'était un grand fan de Varèse et il se sentait en fait à l'étroit dans l'industrie du disque, hein, où il se sentait totalement manipulé. Alors, ils ont fait ce concert au Théâtre de la Ville en 84, où Boulez avait exprès programmé Zappa avec Carter et Ives. Parce que ce qui intéressait Boulez, c'est l'espèce de collision entre Zappa et Carter. Hein. Il disait que Carter, c'était l'anti-Zappa. Et en fait, au final, Zappa était très déçu par le concert. On sait pas trop pourquoi. Sans doute pour un truc de malaise institutionnel. Et même, on raconte hein, que Boulez a dû le tirer littéralement par le bras pour que Zappa vienne saluer sur la scène.
Et pourtant, on va inventer une uchronie. Alors, c'est parti.
C'est parti.
Petite musique du générique. Et si Pierre Boulez avait fait un opéra avec Frank Zappa? Nous sommes en 1984. Pierre Boulez, achevé sa grande œuvre électronique, répond. Et il vient de faire un disque avec Zappa. Et il en a assez. Trop de pression, trop de responsabilités à l'IRCAM, à l'Intercontemporain, au New York Philharmonic, le maître de Montbrison est rincé. Il décide de partir en tournée avec le groupe de Frank Zappa. Colorado, Nevada, Arizona, Californie, les deux hommes tracent la route et Boulez découvre en chemin la musique rock des années 80. Alors, est-ce que Boulez a connu une période beatnik comme Michel Foucault?
Non. Et même, ça paraît, il faut vraiment se concentrer pour imaginer Boulez, ne serait-ce qu'avec des pantalons de pas de def.
Pourtant, il y a une photo où il est entouré de naïades à Hawaï.
Mais ouais. Peut-être qu'il aurait pu se calquer sur Messiaen pour les chemises en col Pellatarte.
Oui. Beatnik avant la lettre, oui.
Ouais. Mais Boulez, la seule période un peu glam, un peu bohème de Boulez, c'est au tout début des années 50, quand il est allé visiter John Cage à New York, hein, au début de leur amitié. Mais là et encore, ça l'intéressait pas en fait la bohème, parce que Cage à l'époque n'avait pas un rond, il était d'une extrême pauvreté, il essayait quand même de rendre la pauvreté élégante, hein, il disait ça, et en fait Boulez était complètement hermétique à ce type d'élégance.
Alors dans notre uchronie, Boulez se met à faire un opéra rock avec Zappa. Quelque chose de psychédélique.
Un opéra psychédélique sur un livret de Jack Kerouac ou quelque chose de plus violent de William Burroughs. Un truc très rock progressif avec de la fumée partout, quelque chose de sombre.
Et aussi, là, c'est votre invention, Lambert, et c'est avec des voix déformées par l'autotune.
Ouais, on imagine comme ça que l'IRCAM, l'autotune, aurait été inventé à l'IRCAM et on imagine en fait que Cher...
Voilà, c'est fait... ça, oui, parce que l'autotune, ça vient de Cher, la chanson Believe.
Oui, voilà. Et ça aurait été amusant d'imaginer Cher qui fait des allées et venues à l'IRCAM, à Igor Stravinsky.
Et donc, dans un univers parallèle, après Répond, Boulez serait devenu le champion de l'hybridation de l'autotune.
Ça aurait été une belle trajectoire et en plus, il aurait pu, hein, ça s'est joué à pas grand-chose. Quand vous écoutez sur Incise, en fait, vous avez presque l'impression d'écouter du Steve Reich. Et donc, bon, après, il a fait Dérive 2, c'est dommage, mais
oui,
il aurait pu continuer.
C'est autre chose, oui.
Voilà, c'est ça. Mais il aurait pu continuer sur cette voie un peu pop.
Les uchronies musicales de Laurent Villarem.
Donc on se quitte pour notre uchronie musicale avec l'opéra qu'aurait pu créer Pierre Boulez dans les années 1990. En réalité, c'est un opéra du compositeur américain Ted Hearn, The Source, qui date de 2014.
Explosive hazard. Explosive device. Explosion report. See?
100, 0 damage.
Vicinity of Root Shark.
Oh, the shark.
December 21st, 2007. An IED detonation was reported by CECO 1327 INF
to Task Force Spartan in the Sala Arctic province, Adwar of vicinity 38S, LD 8930-1490. First platoon ACO, first STB was traveling north en route shark when an IED detonated on their convoy.
Oh, the shark.
Explosive hazard.
Merci Lambert Dousson.
Merci à vous.
Je rappelle votre livre Pierre Boulez, une manière de penser et de sentir aux presses universitaires de Rennes. La semaine prochaine, nous nous demanderons et si Marcel Proust avait écrit un livret d'opéra. Les Uchronies musicales, collaboration Pauline Boisaubert, prise de son et mixage Philippe Thibault, réalisation Céline Parfenoff. Et maintenant, vous retrouvez Un été avec Louis Armstrong, avec Florian Royer.
À réécouter sur francemusique.fr.